Histoire de la réformation du XVIe siècle, livre 10, chapitre 12. Deux issues, mort de Frédéric, le prince et le réformateur, alliance catholique, projet de charte, danger. Cependant, la cause de la réformation elle-même parut d'abord devoir périr dans le gouffre qui engloutit les libertés populaires. Un triste événement sembla devoir hâter sa fin. Au moment où les princes marchaient contre Mansaer, 10 jours avant sa défaite, le vieux électeur de Saxe, cet homme que Dieu avait établi pour défendre la réformation contre les attaques du dehors, descendait dans la tombe. Ses forces diminuaient de jour en jour. Les horreurs dont la guerre des paysans était accompagnée brisaient son âme compatissante. « Ah ! S'écriait-il, avec un profond soupir, si c'était la volonté de Dieu, je mourrais avec joie. Je ne vois plus ni amour, ni vérité, ni foi, ni quoi que ce soit de bon sur la terre. » Détournant ses regards des combats qui remplissaient alors l'Allemagne, ce prince pieux se préparait en paix au départ dans son château de Locao. Le 4 mai, il fit demander son chapelain, le fidèle Spalatin. « Vous faites bien, lui dit-il avec douceur, en le voyant entrer, de venir me voir, car il faut visiter les malades. » Puis, ordonnant qu'on roulât sa chaise longue vers la table, près de laquelle Spalatin s'était assis, il fit sortir tous ceux qui l'entouraient, prit affectueusement la main de son ami et parla familièrement avec lui de Luther, des paysans et de son prochain départ. Le soir, à 8 heures, Spalatin revint. Le vieux prince lui ouvrit alors toute son âme et confessa ses fautes en la présence de Dieu. Le lendemain, 5 mai, il reçut la communion sous les deux espèces. Il n'avait près de lui aucun membre de sa famille. Son frère et son neveu étaient partis avec l'armée, mais ses domestiques l'entouraient, selon l'ancien usage de ces temps. Les yeux arrêtés sur ce prince vénérable, qui leur avait été si doux de servir, tous fondaient en larmes. « Mes petits enfants, dit-il d'une voix tendre, si j'ai offensé l'un de vous, qu'il me le pardonne, pour l'amour de Dieu. Car nous autres, princes, nous faisons souvent de la peine aux pauvres gens, et cela est mal. » Ainsi Frédéric accomplissait cette parole d'un apôtre, « Que celui qui est élevé s'humilie dans sa bassesse, car il passera comme la fleur de l'herbe. » Spalatin ne le quitta plus. Il lui présentait avec ferveur les riches promesses de l'Évangile. Et le pieux électeur en goûtait avec une paix ineffable les puissantes consolations. La doctrine évangélique n'était plus pour lui cette épée qui attaque l'erreur, qui la poursuit partout où elle se trouve, et qui, après un combat vigoureux, enfin en triomphe. Elle distillait comme la pluie et comme la rosée sur son cœur, et le remplissait d'espérance et de joie. Frédéric avait oublié le monde présent. Il ne voyait plus que Dieu et l'éternité. Sentant sa mort approcher à grands pas, il fit détruire le testament qu'il avait écrit plusieurs années auparavant, et où il recommandait son âme à la Mère de Dieu. Puis il en dicta un autre, où il invoqua le saint et unique mérite de Jésus-Christ pour la rémission de ses fautes, et déclara sa ferme assurance qu'il était racheté par le sang précieux de son bien-aimé Sauveur. Ensuite il dit « Je n'en puis plus ». Et le soir, à 5 heures, il s'endormit doucement. « C'était un enfant de paix, » s'écria son médecin, « et il a délogé dans la paix. Ô mort, pleine d'amertume, pour tous ceux qu'il laisse dans la vie, » dit Luther. Luther, qui parcourait alors la Thuringe pour l'apaiser, n'avait jamais vu l'électeur, si ce n'est de loin, à Worms, aux côtés de Charles Quint. Mais ces deux hommes s'étaient rencontrés en leur âme, du premier moment que le réformateur avait paru. Frédéric avait besoin de nationalité et d'indépendance, comme Luther de vérité et de réformation. Sans doute la réforme fut avant tout une œuvre spirituelle, mais il était nécessaire peut-être, à ses premiers succès, qu'elle se liât à quelque intérêt national. Aussi, à peine Luther se fut-il élevé contre les indulgences, que l'alliance entre le prince et le moine fut tacitement conclue. Alliance purement morale, sans contrat, sans lettres, sans parole même, où le fort ne prêta d'autre secours au faible que de le laisser faire. Mais maintenant que le chêne vigoureux à l'abri duquel la réformation s'était peu à peu élevée était abattu, maintenant que les ennemis de l'Évangile déployaient partout une haine et une force nouvelles, et que ses partisans étaient réduits à se cacher ou à se taire, rien ne semblait plus pouvoir le défendre contre le glaive de ceux qui le poursuivaient avec fureur. Les confédérés de Ratisbonne, qui avaient vaincu les paysans au midi et à l'ouest de l'Empire, frappaient partout la réforme en même temps que la révolte. À Würzburg, à Bamberg, on fit mourir plusieurs des citoyens les plus tranquilles et ceux même qui avaient résisté aux paysans. « N'importe, disait-on ouvertement, ils tenaient à l'Évangile. » C'était assez pour que leur tête tombât. Le duc Georges espérait faire partager au landgrave et au duc Jean de Saxe ses affections et ses haines. « Voyez, leur dit-il après la défaite des paysans, en leur montrant le champ de bataille, « voyez les maux que Luther a enfantés !» Jean et Philippe parurent lui donner quelque espoir d'adopter ses idées. « Le duc Georges, dit le réformateur, s'imagine triompher maintenant que Frédéric est mort. Mais Christ règne au milieu de ses ennemis. En vain grince-t-il les dents. Leur désir périra. » Georges ne perdit pas de temps pour former dans le nord de l'Allemagne une confédération semblable à celle de Ratisbonne. Les électeurs de Mayence et de Brandebourg, les ducs Henri et Éric de Brunswick et le duc Georges se réunirent à Dessau et conclurent, au mois de juillet, une alliance romaine. Georges pressa le nouvel électeur et son gendre, le landgrave, d'y adhérer. Puis, comme pour annoncer ce que l'on devait en attendre, il fit trancher la tête à deux bourgeois de Leipzig, dans la maison desquels on avait trouvé des livres du réformateur. En même temps arrivaient en Allemagne des lettres de Charles Quint, datées de Tolède, qui convoquaient une nouvelle diète à Augsbourg. Charles voulait donner à l'Empire une constitution qui lui permit de disposer à son gré des forces de l'Allemagne. Les divisions religieuses lui en offraient le moyen, il n'avait qu'à lâcher les catholiques contre les évangéliques, et quand ils se seraient mutuellement affaiblis, ils triompheraient facilement des uns et des autres. Plus de luthériens ! Tel était donc le cri de l'empereur. Ainsi tout se réunissait contre la réformation. Jamais l'âme de Luther n'avait dû être accablée de tant de craintes. Les restes de la secte de Menzer avaient juré qu'ils auraient sa vie. Son unique protecteur n'était plus. Le duc Georges, lui écrivait-on, avait l'intention de le faire saisir dans Wittenberg même. Les princes qui eussent pu le défendre baissaient la tête et paraissaient avoir abandonné l'Évangile. L'université, déjà diminuée par les troubles, allait, disait-on, être supprimée par le nouvel électeur. Charles, victorieux à Pavie, assemblait une nouvelle diète dans le but de donner à la réforme le coup de mort. Quel danger ne devait-il donc pas prévoir? Ses angoisses, ses souffrances intimes, qui avaient souvent arraché des cris à Luther, déchiraient son âme. Comment résistera-t-il à tant d'ennemis? Au milieu de ses agitations, en présence de tant de périls, à côté du cadavre de Frédéric qui avait à peine perdu sa chaleur, et des corps morts des paysans qui couvraient les plaines de l'Allemagne. Luther, personne sans doute ne l'eût imaginé, Luther se maria.